Chers fidèles, chers amis, merci de me donner la parole pour cette conférence, pour ce sujet un peu étrange. Visiblement, Harry Potter attire toujours les foules, quelques-unes. Si je raconte pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai lu ce quatrième tome, Harry Potter et la Coupe du Feu, tous les enfants, même dans nos écoles, ne parlent que de Harry Potter, presque 800 pages, l'édition allemande en 3 jours. Pris encore le bréviaire, je disais encore la messe, mais il me fallait 18 heures pour lire. Il y a là un danger, une vague de d'ésotérisme qui conduit vraiment au satanisme. Et c'est pourquoi j'ai écrit cet article qui était traduit après en langue française, même en anglais, en polonais, et qui est apparu dans le journal Alias, et je pense maintenant vous avez tous plus ou moins lu pour savoir un peu de quoi il s'agit, sinon vous trouvez encore des photocopies. Alors je fais simplement un petit résumé en 3 points. D'abord quelques informations, ce succès commercial, l'auteur, c'est ça que vous trouvez dans cet article, cette fascination presque bouleversante. Un deuxième point, ce sera la critique. On juge cette lecture dangereuse. Et un troisième point, c'est la conclusion. Alors, seulement pour remémoriser quelques preuves de ce succès vraiment effrayant, on parle partout de la Pottermania, une saga Harry Potter. Et déjà, les chiffres montrent qu'il y a quelque chose qui est plus que bizarre. En tout cas, il y a un marketing, un management pour répandre ces livres, c'est effrayant. Dans même pas 3 ans, on a vendu plus que 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde de ces livres, avant tout de ces premiers 4 tomes, de ce 4e tome. C'est quelque chose qui n'a juste maintenant pas existé. L'édition en anglais aux États-Unis a débuté avec 3 800 000 exemplaires. C'est un record, peut-être le 5e tome va le rompre, mais en tout cas c'est un record. Pendant des mois, dans tous les pays, ces 4 tomes, ces livres étaient le best-seller de tous les bulletins. Et cette femme est maintenant une des plus riches dames de l'Angleterre. Traduction dans plus que 40 langues. Donc ça montre déjà il y a un phénomène, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et bien sûr, ce sera Steven Spielberg, très connu pour ses films ésotériques, il faut le dire, qui va réaliser ce film, qui va apparaître pour le jour de Halloween. On parle maintenant plus de la Toussaint, mais de Halloween cette année. L'auteur, je pense que peut-être vous avez lu, c'est aussi, donc son succès, c'est effrayant. C'est une Madame Rowling, nationalité anglaise, 34 ans, ayant fait des études de français, elle enseigne au Portugal, où elle se marie, divorcée peu de temps après. Elle se titulait elle-même la secrétaire la plus mauvaise du monde entier. Elle connaît une période de misère matérielle, et pendant un voyage très précis, c'est elle qui raconte ça elle-même, elle a toute l'idée de Harry Potter, donc toute cette histoire autour de ce jeune garçon, jeune élève, et il parle d'une certaine illumination. Elle est seulement un instrument. Alors, après ce succès bouleversant, elle a rendu plusieurs prix littéraires, le doctorat d'honneur. Elle a été décorée par la reine Elisabeth pour service rendu à la littérature. Et c'est d'ailleurs ça qui était prévu et qui se réalise maintenant un peu partout, dans tous les pays, en tout cas en Allemagne, en Angleterre bien sûr. C'est une littérature pour l'école. Donc, mes nièces lisent ça à l'école, déjà à la primaire. Autre point seulement pour vous donner une certaine idée, c'est cette fascination génération. Donc, qui est habituée à la télévision, à des jeux électroniques, aux ordinateurs, aux vidéos, commence tout d'un coup à lire. Il n'y a pas des images comme avec Astérix et Obélix, il n'y a pas, et ce sont vraiment des bouquins. Ce 4e tome, édition française, c'est une très belle édition d'ailleurs, on peut facilement lire, même les âgés, donc ceux qui ont déjà un peu des lunettes, comme moi. Elle a 652 pages. Alors, Alors, quel jeune enfant de 10 ans lit des bouquins comme ça? Je connais une famille, 4 enfants de, je crois, de 6 jusqu'à 14, et la maman me disait, elle doit limiter. Elle doit dire, alors, de 11h à 12h, c'est Marie, et ici, sur le livre, on découvre déjà un peu cette fascination. Par exemple, Le Monde a titulé Harry Potter vous ensorcelle dès les premiers paragraphes et vous procure un sentiment continu de jubilation. Et le journal Lire, Harry Potter semble déjà avoir acquis une dimension mythologique, imaginez, après quelques mois seulement. Envoûtant, drôle, bouleversant, ce quatrième tome est le pilier central des aventures de Harry Potter. J'ai ici un extrait de l'Internet. Un jour seulement, c'est en langue française, 34 commentaires d'aujourd'hui. Donc, les lecteurs, ceux qui sortent, peuvent donner des points, 10 sur 10, c'est la note moyenne. 10, c'est le maximum, et la note moyenne, c'est 10 sur 10. Donc, presque tous, 10 sur 10, 10 sur 10. Dommage qu'il ne soit pas publié en poche. 10 sur 10, lisez-le, 10 sur 10, envoûtant, irrésistible, 10 sur 10. Et pas seulement des jeunes, mais aussi des adultes. Un seul a mis 0 sur 10. Quelle nullité! C'est un Suisse d'ailleurs. Quelle déception après avoir lu une centaine de pages. Mais c'est vraiment la grande exception. Tous les autres, une admiration, justement une jubilation, une fascination impressionnante. Pour tous, petit et grand, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et des enfants donc, c'est, bon, je dis encore une fois, surprenant. Un coup de génie. Je suis amoureuse de Ron, c'est un élève. Vive Harry Potter, des super livres, excellents, super maîtresse, phénoménal, et ainsi de suite. Alors, peut-être un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui n'ont pas lu. Le contenu de ce quatrième tome, moi j'ai lu seulement un tome. Cela me suffisait parce qu'on parlait de ça, et je pensais, c'est un peu, c'est d'ailleurs certainement au centre de toute l'histoire, donc il y aura 7 tomes en tout. Chaque année, ça décrit une école et ses élèves parcourent cette école un an après l'autre, il y a 7 ans selon les lycées anglais. Et donc ça c'est au milieu. Et au milieu, vous verrez, il y aura un rituel satanique. Alors, je lis tout simplement pour raccourcir. Après un horrible été chez les Dursley, ce sont des non-sorceliers, donc ceux qui ne pratiquent pas la magie, et en lisant, on a l'impression, et vraiment la forte impression, ce sont les chrétiens, donc ceux qui ne pratiquent pas encore la magie, l'ésotérisme. Alors, il est cet enfant, il s'agit donc de Harry Potter, c'est un jeune garçon de 11 ans, orphelin, élevé par des proches, justement des chrétiens, qui le maltraitent. Alors, ses parents on a l'impression qu'ils sont vraiment les plus abominables des parents. Le papa, il ne fait que manger, la maman que jurer, des choses comme ça. Alors on est dégoûté de cette situation. On a déjà pitié de cet enfant. Ses parents meurent, donc les parents de Harry Potter, ça c'est le début de l'histoire, ce premier tome, meurent dans un accident de voiture dont lui-même réchappe, donc Harry, et dont il conserve une marque, une cicatrice sur le front, en forme d'éclair, ce sera un peu sa marque. Il apprendra plus tard que ses parents, sorciers illustres, ont en réalité été assassinés par le très méchant magicien Voldemort. Voldemort, il représente, je pense, c'est pas ma conclusion, c'est évident, le diable. Donc le malin, le pervers, Satan. Et que lui-même est doué de pouvoirs magiques. Alors, il est formé à l'école des sorciers en Écosse, et c'est ça l'histoire. Chaque tome présente une année scolaire. Alors, où il se liera d'amitié avec un garçon et une fille qui l'accompagneront tout au long de ses aventures. Le thème central du tome 4 est un grand concours de magie organisé entre les trois plus prestigieuses écoles européennes de sorcellerie. Chacune sera représentée par son meilleur élève, qui devra correspondre à des critères bien précis et sera élu par une coupe de feu. Ça, c'est le titre du tome. Au pouvoir magique. Cependant, à la stupéfaction générale, la coupe de feu désigne un quatrième élu en la personne de Harry, qui, bien qu'élève exceptionnellement doué, ne correspond pas encore aux critères imposés. Il a seulement 14 ans, et les autres sont plus que 17 ans, ont dépassé les 17 ans. Ce coup d'éclat ne manque pas de jeter un grand trouble dans toute l'école. Tricherie, manipulation. Donc, on sait tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui est l'ennemi de Harry qui veut le tuer parce qu'il n'a pas de chance contre les autres qui sont beaucoup plus forts en sorcellerie. Alors c'est ça l'histoire. Il y a donc ce tournoi. Et bien sûr, Harry, comme dans tous les contes, il gagne, mais d'une manière un peu inattendue. Il est très gentil. Il laisse gagner avec lui son ennemi ou son ami, comme vous voulez, et tous les deux touchent en même temps ce coup de feu. Et tout de suite, tout d'un coup, ils sont transportés, comme ils disent, sur une cimetière. Et là, il y aura le grand combat avec ce Voldemort, donc avec Satan, et ce Satan essaye donc de tuer Harry parce que il a des dons époustouflants, il a des dons très forts et il veut se venger il veut se venger parce que cet enfant a pu échapper de cet accident contre ses parents, ses propres parents, donc parents de Harry. Alors ça, c'est un peu l'histoire, je ne veux pas trop prolonger, sinon vous ne pouvez plus dormir. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est un peu, on essaye un peu de critiquer, de faire une analyse critique, pourquoi il y a, c'est pas seulement un jeu, c'est une fiction, un conte comme il y a les autres, pourquoi il y a un danger réel pour les enfants, et pas je ne veux pas dire pour tous ceux qui le lisent, mais cette histoire, cet homme, cette Pottermanie est plutôt transporte, on pourrait dire, quelque chose, un message. On a l'impression, le lecteur, donc notre époque, et c'est pourquoi c'est effrayant, il y a tout un monde qui lit, alors on a l'impression on est préparé pour autre chose. Alors, quelle est cette autre chose? Bien sûr, c'est le royaume de l'Antéchrist, je pense. À la fin, il n'y a pas de doute. On ne sait pas comment on va terminer cette série, le septième tome. En tout cas, elle a déjà prévu tout. Mais je pense ici, il y a un peu le nœud, l'explication, ce rituel satanique. Je vais encore faire allusion de ça pour vous choquer un peu. Alors, j'énumère quelques points de critique. C'est certainement pas exhaustif, pas complet, mais pour vous donner une idée. D'abord, on décrit ici, on présente, et pas seulement on présente, un monde antéchrétien, païen, antimoral ou immoral, mais ce monde est accepté. C'est ça qui est d'abord effrayant. Vous voyez, il y a aussi des... dans la littérature avant tout anglaise, il y a des explications pour pourquoi c'est toujours l'Angleterre qui présente ce monde des démons, de la magie, mais dans l'autre littérature, en tout cas pour la plupart, on sait que c'est un autre monde, c'est une fiction, c'est pas la réalité. Ici, c'est ça qui est d'abord surprenant et qui m'a impressionné, c'est vraiment l'enfant qui n'est pas, je dirais, qui ne pratique pas, qui ne dit pas tous les jours trois chapelets, elle a l'impression que c'est la réalité. C'est vraiment son monde, l'école, et ainsi de suite. On va encore voir ça. Mais tout d'abord, c'est un monde du mauvais goût, un univers de laideur, je dirais. Et le jeune lecteur entre dans cet univers, dans un univers de laideur, de sorcellerie, de magie, d'ésotérisme. Et ce monde est proposé dans le détail, vous voyez, c'est vraiment, on a envie de pratiquer. Et d'ailleurs, il y a des histoires comme ça, des réactions comme ça, l'enfant, elle veut utiliser. C'est tellement réel, c'est tellement proche de lui, c'est son monde, on a l'impression. C'est pas seulement l'imagination, on n'est pas enlevé dans un monde imaginaire, c'est la réalité, et on a envie de vivre dans ce monde dégoûtant, de mauvais goût. Je vous donne un texte, un exemple, mais qui peut-être peut montrer un peu ce que je veux dire, ce monde de mauvais goût. Alors, ils ont toutes sortes de matières, bien sûr pas les maths et géographie, mais justement l'histoire de la sorcellerie, la magie, utiliser ses dons et ainsi de suite. Et il y a un professeur très dégoûtant, et c'est par hasard, certainement pas un hasard, c'est le professeur qui attire le plus, parce qu'il a les dons les plus impressionnants. Il peut maudire, c'est maugré, comme il s'appelle. Alors, je vous lis quelques phrases, bien sûr pour vous choquer un peu, mais pour vous montrer, et c'est pas le seul passage, c'est vraiment un monde, oui, dégoûtant. Alors le professeur Kouraf montra aux élèves les plantes les plus laides que Harry eût jamais vues. Donc déjà ça, c'est pas un monde beau, agréable. Ce sont les plantes les plus laides. Et c'est un fil qu'on retrouve presque à toutes les pages. En fait, elles ressemblaient donc ces plantes moins à des plantes qu'à de grosses limaces noires et épaisses qui dépassaient verticalement de leur peau. Elles se tortillaient légèrement et étaient couvertes de grosses pustules brillantes, apparemment pleines de liquide. Ce sont des bobules, bubobules, il y a aussi ça d'ailleurs, tous ces mots, ça j'ai pas fait. J'ai fait quelques mots, j'ai fait des recherches. On a l'impression que tous ces mots représentent quelque chose. Elle est très forte d'ailleurs en littérature. Elle a étudié les vieux termes de la magie. Donc il y a certainement des idées qui sont derrière. Alors, ce sont des bubobules, annonça vivement le professeur Kouraf. Kouraf, c'est son nom. Vous allez percer leur vésicule pour recueillir le pu. Le quoi ? S'écria Seamus Finnegan d'un ton dégoûté. Donc, d'une part, on a la réaction imminente ou spontanée, mais ce qu'on va atteindre, c'est vraiment le dégoût, le mauvais, la laideur. Alors, le pu, Finnegan, le pu, répéta le professeur Kouraf, et c'est une substance extrêmement précieuse, alors n'en perdez pas, surtout. Vous allez donc recueillir ce pu dans des bouteilles. Après, ça continue. Percer les pustules de bubobule était assez répugnant, mais procurait également une étrange satisfaction. Chaque fois qu'une des vésicules éclatait, il s'en échappait une grande quantité d'un épais liquide d'une couleur vert jaunâtre qui dégageait une forte odeur d'essence. Alors, c'est vraiment un peu un maximum de dégoût. Les élèves le faisaient couler dans les bouteilles que le professeur et ainsi de suite. Le pu de bubobule est un excellent, dit donc maintenant, je parcours un peu. C'est le professeur qui parle. Le pu de bubobule est un excellent remède contre les formes les plus persistantes d'acné. Oui, c'est ça, d'acné. Donc, c'est quelque chose pour l'enfant, vous voyez. Ces filles qui sont un peu troublées par leur acné. Avec ça, les élèves de Poudlard devraient cesser de recourir à des méthodes désespérées pour se débarrasser de leurs boutons. Et ainsi de suite. Attendez, est-ce que je continue? Alors il dit, par exemple, « J'ai apporté des œufs de fourmis et des foies de grenouilles, et puis un morceau de couleuvre. Vous n'aurez qu'à essayer de leur donner un peu de chaque. » Alors, ils doivent maintenant nourrir ces bêtes horribles. On aurait dit des homards difformés, dépourvus de carapace, d'une pâleur horrible, d'aspect gluant, avec de petites pattes qui dépassaient aux endroits les plus inattendus et sans tête visible. Donc, c'est laid. Le professeur, il montre comment il faut faire grandir ces bêtes horribles. Harry ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela n'était pas parfaitement inutile, étant donné que les scrouts ne semblaient pas avoir de bouche. Ce sont des autres bêtes. Donc, et ça m'a fortement impressionné. Et ça montre, il y a là, c'est pas par hasard. Il y a toujours allusion à ce monde chrétien, ce monde donc de la création, du beau, du vrai, du bon aussi. Mais tout cela est dépassé par l'anti-monde, par la anti-création, pourrait dire, par cette création de la magie. Oui, s'écria Dean Thomas, une dizaine de minutes plus tard, il m'a eu. Hagrid se précipita vers lui d'un air inquiet. Il a explosé, expliqua Dean d'un ton furieux en montrant à Hagrid une brûlure sur sa main. Et ainsi de suite. Donc, cela peut vous donner une impression de ce monde du mauvais goût. Ça, c'est une chose. Un deuxième point qui est certainement qui tombe dans les yeux, c'est un monde brave. Dans cette école, les enfants apprennent à se servir du pouvoir de malédiction et à se nuire les uns les autres. Un professeur enseignait les malédictions irréversibles, c'est un terme technique, les malédictions irréversibles qui assurent une domination complète de la victime. Et ce passage, je veux quand même vous expliquer un peu, parce que c'est très important. Il y a là, je crois, un message primordial qui veut dire, si on utilise cette magie, qui apparemment est une magie blanche, je vais encore expliquer ce terme, donc une magie bonne, conduit à un pouvoir qui détruit, qui tue, qui fait peur, qui blesse. Et c'est un chapitre, un des plus importants. C'est aussi une matière, les sorts, les sortilèges. Est-ce que c'est la même chose, sorts et sortilèges? Plus ou moins. Alors c'est un professeur Rock qui enseigne ces sortilèges. Et il y a plusieurs, ils doivent répéter ça, ils doivent expérimenter ça. Il y a des examens d'ailleurs, ils doivent vraiment... Et le meilleur élève est celui qui peut faire les sorts les plus forts. Alors, il y a trois sortilèges impardonnables, donc ils sont interdits. Mais ils sont tellement présentés et expliqués d'une manière claire et évidente qu'on les pratique. Et d'ailleurs, après... On verra des enfants, des élèves qui utilisent ces sortilèges. Alors, il y a trois. On ne peut pas, vous voyez, feuilleter et lire en diagonale. C'est impossible. Oh, impossible pour savoir comment ça... Ce n'est pas comme un Charlemagne ou je ne sais pas quoi, où on peut laisser tomber quelques pages, ici ça ne marche pas. Et alors elle décrit là l'intérêt pour donc les enfants pour savoir ses sorts. Jupiter, sur les trois tables qui faisaient face au bureau professoral, sortirent leur exemplaire de Force obscure. C'est leur livre. Force obscure, comment s'en protéger? Donc, comment se protéger contre ces sorts? Et attendirent dans un silence inhabituel, même pour ces élèves-là, c'est inhabituel qu'ils ont un tel désir pour secours. Bientôt, ils entendirent le son caractéristique du pas de Maugret. Le claquement de sa jambe de bois sur le sol résonna en écho dans le couloir. Il entra dans la classe, la physionomie aussi étrange et effrayante qu'à l'ordinaire. Dépassant sous sa robe de sorcier, on apercevait son pied en bois doté de griffes. C'est pas, je me suis trompé, c'est... Oui, c'est ça. L'un des professeurs s'appelle Rock, l'autre Maugret. Ainsi de suite, alors il explique le premier de ce, la première de ces sordièges. Alors il prend, attendez, Maugret se leva avec lenteur, donc c'est très, très important, tiroir de son bureau et en sortit un bocal en verre. À l'intérieur, trois grosses araignées agitaient en tous sens pour essayer de sortir. Il y a toujours ce combat contre la vie. Henri sentit Ron se tasser légèrement sur sa chaise à côté de lui, c'est son ami Ron. Ron détestait les araignées, donc c'est la réaction normale, si vous voulez. Maugret plongea une main dans le bocal, attrapa une des araignées et la posa au creux de sa main pour que tout le monde puisse la voir. Puis il pointa sa baguette magique, donc c'est ça leur instrument, la baguette magique, sur elle et murmura « Imperio ». Et ces sorts, donc, ce sont vraiment des termes utilisés dans la... Il n'y a rien à douter, c'est comme ça. Il y a des lexiques, des livres qui vous présentent ces termes qu'on peut utiliser. L'araignée sauta alors de sa main, se laissa descendre le long d'une imperceptible file de soie et commença à se balancer comme si elle exécutait un numéro de trapèze. Puis elle tendit les pattes et fit un saut périlleux en arrière, rompant le fil en ton et tomba sur le bureau où elle se mit à faire la roue en décrivant des cercles. Alors, tout le monde se mit à rire, sauf Maugret, sauf le professeur. « Vous trouvez ça drôle ? » grogna-t-il. « Ça vous plairait que je vous oblige à faire la même chose ?» Les rires s'évanouirent presque instantanément. Alors, il explique maintenant ce sort. C'est le contrôle total. Il Maugret, à voix basse, tandis que l'araignée se recroquevillait et roulait sur elle-même d'un bout à l'autre du bureau. « Je pourrais lui ordonner de se jeter par la fenêtre, » de se noyer ou de sauter dans la gorge de l'un ou l'une d'entre vous. Donc, domination totale sur l'ennemi, si vous voulez. Ron fut parcouru d'une frisson. Le professeur continue. Il y a des années, nombre de sorcières et de sorciers se sont retrouvés soumis à un sortilège Imperium, donc ce sortilège, Imperium. Donc, il fait ça avec les araignées, mais le message est clair, on peut utiliser pour les hommes. Alors, il fait un peu peur, mais la fascination monte. Alors, comment échapper à ce sortilège? Il donne le mot-clé, c'est vigilance constante. C'est aussi quand vous dites ça, on rend ridicule les vertus chrétiennes. Deuxième sort, le sortilège Doloris, douleur, dit Maugret. Il va falloir l'agrandir un peu pour que vous compreniez mieux le principe. Il pointa sa baguette sur l'araignée. Amplificatum, marmonna-t-il. C'est nouveau un sort. L'araignée enfla aussitôt. Elle était à présent plus grosse qu'une tarentule. Renonçant à dissimuler sa répulsion, Ron recula sa chaise aussi loin que possible du bureau de Maugret. Celui-ci leva à nouveau sa baguette, la pointa sur l'araignée et murmura
Indoloris. Les pattes de l'araignée cédèrent alors sous son corps. Elle roula sur elle-même, agitée d'horribles convulsions, se balançant de tous côtés. Elle n'avait aucune possibilité d'émettre le moindre sommet. Harry était sûr que, si elle avait eu une voix, elle aurait poussé des hurlements déchirants. « Arrêtez !» s'écria Hermione, c'est l'ami de Harry, d'une voix perçante. Alors le professeur Maugrey leva sa baguette, les pattes de l'araignée se détendirent, mais elle continuait de se convulser. « Reducto !» murmura Maugrey. L'araignée retrouva instantanément sa taille normale et Maugrey la remit dans le bocal. On n'a besoin d'aucune arme pour faire mal à quelqu'un quand on est capable de jeter le sortilège Dolorès. C'est ça le message. Alors, faire la mort. Il glissa la main dans le bocal et, comme si elle devinait le sort qui l'attendait, la troisième araignée se mit à courir frénétiquement au fond du récipient pour essayer de lui échapper. Mais Maugrey l'attrapa et la posa à son tour sur le bureau où elle recommença à courir. C'est un peu, on a l'impression, c'est un peu comme le fœtus. C'est l'homme qui va être avorté et il veut se sauver. En proie à une véritable panique, Maugrey leva sa baguette et Harry fut parcouru d'un frisson comme s'il éprouvait soudain un mauvais pressentiment. Avada Kedavra. Le sortilège pour la mort. Ça aussi, c'est un terme connu. Avada Kedavra. Il y eut un éclair aveuglant de lumière verte et un bruit semblable à une rafale de vent, comme si quelque chose d'invisible et d'énorme avait brusquement pris son vol. Aussitôt, l'araignée roula sur le dos. Elle était apparemment intacte, mais il n'y avait aucun doute, elle était morte sur le coup. Dans la classe, plusieurs filles étouffèrent un cri. C'est très réel, vous voyez, la réaction. Ron se rejeta en arrière, donc c'est une fille, et faillit tomber avec sa chaise lorsque l'araignée morte glissa vers lui. Vous voyez, c'est beaucoup d'enfants, vous connaissez ça, ont peur des araignées. Alors c'est présenté ici comme ça, mais le message est autre. « Pas très agréable, » dit-il d'une voix calme. « Pas amusant du tout, et il n'existe aucun moyen de conjurer ce sortilège. » Justement, Voldemort va utiliser, ou essaie d'utiliser, ce sortilège contre Harry. « Impossible de le neutraliser. On ne connaît qu'une seule personne qui a jamais réussi à y survivre, et cette personne est assise devant moi. » C'est justement Harry. C'est pourquoi ce Voldemort est tellement acharné contre lui, parce qu'il a pu échapper à ce sort. Et après, mais seulement à la fin, on sait pas, on connaît pas l'ennemi de... C'est pas Voldemort, il y a un ambassadeur, il y a un ami qui travaille pour Voldemort, mais jusqu'à la fin, on connaît pas qui essaye de tuer Harry. Et à la fin, on découvre pourquoi Harry a pu échapper à ce sort, à ce sortilège de Voldemort. Et ainsi de suite. Je pense que ça suffit c'est pour vous montrer. On peut dire c'est un jeu. Mais l'application est très réelle et cruelle et mortuelle. Ambiance, pour continuer toujours ce deuxième point, un deuxième critique, un monde païen, immoral, antichrétien. L'ambiance de l'école a de quoi plaire aux jeunes actuels, car c'est vraiment la libération de toute morale. Je pense que ça, c'est... Et ça s'aggrave de tome à tome, de bouquin à bouquin. Je ne connais pas la fin, mais si ça continue comme ça, c'est vraiment la liberté, etc. Dans l'article, j'ai donné un exemple. L'autorité des professeurs est bafouée. C'est aussi le règne du mensonge, de la paresse, de la haine, de la vulgarité. Et un exemple, c'est vraiment les valeurs familiales qui sont attaquées. D'une part, ces valeurs sont tout le temps mentionnées. On a l'impression l'enfant cherche ça, mais ces valeurs sont complètement bouleversées. Et on a trouvé, je cite ici, sur le site internet, un site américain, l'auteur, donc Rowling, cette femme, a déclaré, c'est une citation, je n'ai pas contrôlé, mais je pense être juste, sinon on n'aurait pas ce Harry Potter. En Allemagne même, les évêques ont loué, c'est un... Oui. Alors, elle dit, j'ai été séduite par l'idée, donc c'est l'auteur qui parle, j'ai été séduite par l'idée de mettre en scène un enfant qui échappe aux contraintes des adultes et qui s'installe dans un univers où il a un pouvoir autonome. Et c'est bon, là j'ai seulement découvert après que j'ai réalisé cet article, mais c'est justement ça que je pensais. Donc, les parents sont décédés par un accident. Il est donc nourri blanche, comme vous dites ça, chez des chrétiens, mais qui sont abominables, qui sont vraiment détestables, mauvais, comme tout. Et ce jeune, il peut échapper à ses parents, à cette famille, par un pouvoir presque total. Et je crois qu'il y a là vraiment une idée forte de cet auteur. Alors encore une fois, donc, un enfant, mettre en scène un enfant qui échappe aux autorités des adultes et qui s'installe dans un univers où il a un pouvoir autonome. Et elle ajoute, c'est dans un entretien avec un journal, citation, « La situation de Harry comme orphelin lui donne une liberté dont les autres enfants peuvent seulement rêver. » Bien sûr, voilà, c'est vraiment... c'est mis à l'envers. Bien sûr, aucun enfant ne désire perdre ses parents, quand même. Mais l'idée d'être délivré de leurs ambitions est séduisante. Fin citation. Donc c'est quand même pas... c'est pas seulement rigolo. D'ailleurs, cette citation qui était publiée partout et que j'ai aussi mentionnée pour compléter, vous trouvez ça dans cet article, donc cette phrase, ces livres aident les enfants à comprendre que ce faible et débile fils de Dieu, donc c'est Rowling, n'est qu'une plaisanterie qui a encore la vie dure et qu'il sera humilié, anéanti lorsqu'il viendra le déluge de feu. C'est ça qui a intéressé et impressionné tout le monde. Mais c'est tiré d'un journal, d'un site sur l'internet satirique. Si elle n'a pas dit ça textuellement, c'est bien possible d'ailleurs, parce qu'avec une satire, on peut justement transmettre ce qu'on voudrait dire. En tout cas, ce point, donc la destruction des valeurs familiales, je dirais même chrétiennes, me semble très, très important. Nous sommes dans une école de sorciers qui vivent dans un monde à part et qui ne côtoient, par exemple, le recours au calendrier chrétien paraîtrait bien rassurant si les fêtes religieuses mentionnées, Noël, Pâques, on parle toujours de Noël, vacances de Noël, n'étaient vidées de leur contenu. Et j'ai trouvé un exemple pour ça, où on voit, on utilise des coutumes, des textes, des couplets chrétiens pour se moquer. C'est ici à la page 354. Vacances ou fêtes de Noël. Alors, les responsables de Poudlard, c'est donc l'école qui a invité les autres écoles pour ce tournoi. Toujours désireux d'impressionner leurs hôtes de beaux bâtons, ce sont les écoles et de Durmstrang, paraissaient décidés à profiter de Noël pour présenter le château sous son château donc de magie sous son meilleur jour. Lorsque les décorations furent installées, Harry resta bouche bée. Il n'en avait jamais vu d'aussi splendide. Donc, l'impression, la vraie splendeur, on ne trouve pas à Noël, mais dans cette école. Des stalactites de glace éternelle avaient été fixées aux rampes de l'escalier de marbre. Les traditionnels 12 sapins de Noël de la grande salle étaient ornés de tout ce qu'on pouvait imaginer de plus spectaculaire. Des branches de houx à baies lumineuses ou des hiboux d'or qui poussaient de vrais ululements. Et les armures avaient été ensorcelées pour chanter. Écoutez bien. Les armures avaient été ensorcelées pour chanter des cantiques de Noël chaque fois que quelqu'un passait devant elles. Ça peut même pas laver marée. Que faire ça que ça chante tout seul. Entendre chanter, il est né le divin enfant par un homme vide qui ne connaissait que la moitié des paroles constituait un moment inoubliable. Alors on se moque, ça c'est clair. À plusieurs reprises, Rusard dut faire sortir PF, ce sont des élèves, de l'intérieur d'une armure où il s'était caché pour remplacer, alors ça c'est quand même fort, pour remplacer les paroles manquantes, donc c'est quand même un couplet chrétien, par des couplets de sa propre invention qui offraient un échantillon assez éloquent de sa grossièreté. Alors, on ne peut certainement pas dire c'est seulement un jeu ou une mode. Et ça, j'ai lu quelque part, je n'ai pas contrôlé, mais je pense que tout le monde le dit, la progression entre les livres donc, de cette série monte, donc augmente. Il y a aussi une dérision des chrétiens qui condamne la sorcellerie. On les appelle moldus. Je ne veux plus insister sur ça, je pense que c'est clair. Je mentionne un autre point de la critique, ou pour critiquer, c'est l'incitation à la magie blanche. On distingue entre magie blanche et magie noire. Souvent on dit, oui mais c'est de la magie blanche. Donc c'est bien ça. Magie blanche, cela veut dire, on utilise la magie, la sorcellerie, pour arriver à une fin bonne, donc pour aider. Et la magie noire, c'est pour nuire. Alors, même si apparemment c'est la magie blanche, donc Harry qui lutte contre Satan, qui lutte contre Voldemort, qui utilise la baguette magique contre le mal, mais, je pense que c'est ça le résumé de ce point, il vainc le mal par le mal. Et c'est justement le contraire à ce que dit Saint Paul, il faut vaincre le mal par le bien. Alors, je lis quelques... Chacun sait que toute forme de magie est diabolique. Toute forme de magie est diabolique, quelle que soit l'intention que l'on se propose. Vous avez peut-être écouté cette cassette du père Verlaine. Et c'est un père, prêtre catholique, il est belge, pendant les années 68, et il est catholique, pratiquant, il a complètement abandonné la foi. Perdu la foi dans cette révolution des étudiants-là, et fait des études, je crois, de chimie. En tout cas, il est tombé dans la méditation transcendantale, il a fait du yoga, il était aux Indes, il a pratiqué, il était vraiment le plus fort après le gourou. Et il dit d'ailleurs, il savait, sans aucune communication, il savait si son gourou, donc son maître, avait soif, faim ou avait besoin de ça. Et c'est impressionnant. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je peux plus. En tout cas, le gourou, il constate que ces Européens vieillissent beaucoup plus vite que les Indiens. Alors il laisse venir des médecins pour découvrir ce mystère. Et là, il a un contact avec un médecin, un Européen, on parle de Jésus, et là, il a une certaine conversion, il peut s'enfuir, et il revient en Europe, conversion par des groupes charismatiques, il assiste à une messe, donc c'est lui qui raconte, et il commence à jurer, à maudire Dieu intérieurement, des blasphèmes, et il ne veut pas ça. Alors à la fin de la messe, il s'adresse au prêtre qui a célébré et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas ça, je cherche Dieu, je veux aimer Dieu. Pourquoi j'ai ces choses? Alors le prêtre dit, c'est pas surprenant, moi je suis l'exorciste officiel du diocèse. Alors ce Verlin, il avait le pouvoir de guérir toutes choses de charisme, de dons, entre autres, de guérir. Et par cet exorcisme, parce qu'il renonce à ses dons, il les perd complètement. Et plus tard, sa mère, sa propre mère, tombe malade. Toute la famille dit, mais guéris-la, parce que tu peux le faire. Il n'arrive plus. Alors la conclusion de ces conférences, de ces livres, il a écrit beaucoup de livres, c'est justement presque toujours, même si l'intention est bonne, oui c'est ça, même si l'intention est bonne, c'est toujours un portail pour le diable, même avec le pendu, des choses comme ça, c'est impressionnant, et c'est justement, c'était toujours là, l'esprit de l'Église. Même si l'intention est bonne, toute forme de magie est diabolique. Alors, en effet, je continue, que l'on cherche à jeter les sorts ou à les enlever par des rites magiques, on fait toujours appel aux puissances démoniaques qui acceptent de se prêter à ce jeu pour mieux nous dominer. Le catholique, dans l'épreuve, recourt seulement à Dieu par la prière, les sacrements ou les exorcismes. Et ici, on atteint le bien, la guérison, on peut vaincre l'épreuve finalement par le mal. Je pense que je ne dois pas mentionner ici l'enseignement de l'Église, mais toute forme de divination sont à rejeter. C'est le catéchisme catholique. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation, les horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Et ici, mais vraiment, à chaque page, c'est le contraire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un argument scientifique, mais ça montre déjà, c'est certainement pas dans l'esprit chrétien ou catholique. Je continue, c'est un passage du catéchisme de l'Église catholique. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquels on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Donc c'est la soi-disant magie noire. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Et c'est exactement ça qu'on trouve ici. Alors je vais vous montrer l'exemple. Donc c'était quoi? C'était initiation à la magie blanche, apparemment pour atteindre le bien, mais le résultat, c'est vraiment le satanisme. C'est pourquoi ce serait le quatrième point de critique de l'ésotérisme, de la magie, on pourrait dire, au satanisme. Je ne veux pas prolonger, mais d'ailleurs, dans l'édition allemande, ce passage se trouve à la page 666. Je ne sais pas si c'est un hasard, en tout cas. Alors, sur ce cimetière, le disciple de Voldemort, il a un nom très très bizarre, je ne me souviens plus. 650. Il tue donc l'ami de Harry, et Harry, il est tout seul. C'est le chapitre Les os, la chair et le sang. C'est vraiment, ça fait allusion à la Trinité, je vais vous expliquer. C'est à la page 567. Alors, est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Sinon, je les prends. Alors, Harry abaissa légèrement sa baguette et jeta un regard en biais à Cédric et son ami, qui paraissaient perplexes. Tous deux se tournèrent à nouveau vers la silhouette qui continuait d'avancer. Donc il y a un homme qui s'approche. L'homme s'arrêtait à côté d'une haute pierre tombale en marbre qui n'était qu'à 2 mètres d'eux. Pendant un instant, Harry et Cédric restèrent immobiles face à la silhouette encapuchonné qui les regardait. Puis, sans le moindre signe avant-coureur, Harry ressentit brusquement une douleur si insoutenable qu'il eut l'impression que sa cicatrice explosait. C'est toujours le signe, il a des douleurs avec cette cicatrice, l'ennemi arrive, c'est connu maintenant. Laissant tomber sa baguette, il couvrit son visage de ses mains, ses genoux fléchirent et il se retrouva à terre, incapable de voir quoi que ce soit. Donc, la force du mal est beaucoup plus forte. C'était comme si sa tête était sur le point de se fendre en deux. Très loin au-dessus de lui, il entendit une voix aiguë et glaciale. « Tue l'autre !» dit la voix. C'est la voix de Voldemort. Il y eut comme un souffle de vent et une deuxième voix perçante lança dans la nuit ces mots terribles « Avada Kedavra ». C'est ça qu'on a appris. Et à travers ses paupières fermées, Harry distingua une lueur verte. Il entendit un bruit de chute à côté de lui. La douleur de sa cicatrice atteignit une telle intensité qu'il fut prise de nausée. Puis elle diminua enfin. Terrifié, ainsi de suite, les bras en croix, Cédric était étendu sur le sol à côté de lui, mort. Alors, arrive maintenant ce rituel. Donc il accroche Harry à cette tombe, à cette pierre, et ce disciple prépare ce rituel que j'appelle satanique, parce que c'est tellement évident. Je peux malheureusement ou heureusement pas tout lire, mais donc Voldemort donne ordre à ce disciple, c'est Kedver, pour pratiquer maintenant ce rituel qui consiste à donner le corps à ce Voldemort. Donc Voldemort était mort, mais l'esprit, bien sûr, le mal, le diable vit, et maintenant il retourne sur terre et il retrouve. Il fait ressusciter de ses propres forces, c'est une allusion à notre Seigneur, son corps. Et comment il arrive? Justement avec ce rituel satanique. Il y a 3 phases qui imitent les 3 personnes divines. C'est tellement clair, hein? Là il faut vraiment pas rêver. Première étape, c'est le Père. Kedver parlait, sa voix tremblait, donc lui-même est effrayé. Et il semblait fou de terreur. Il leva sa baguette magique, fermant les yeux, puis prononça ces paroles dans la nuit noire. Que les ossements du Père, donnés en toute ignorance, fasse renaître son fils. Alors, si c'est pas une allusion, je comprends plus rien. Au pied de Harry, la tombe grinça. Et plus tard, on va découvrir, c'est justement la tombe du père de Voldemort. Vous voyez, donc c'est très clair. C'est blasphématoire, mais ça montre. C'est un chapitre après tout le reste. C'est pas. Oui, c'est bien sûr, c'est le comble, mais c'est dans ce livre, c'est pas à part. Alors, cette tombe grince, horrifié, il vit une fine volute de poussière s'élever dans les airs, puis, obéissant, donc ce truc, obéissant à queue de verre, tomber doucement dans le chaudron qui a été préparé. La surface, brillante comme diamant, s'agita et un long sifflement s'en échappa. Deuxième étape, poussant un faible gémissement, Cuthbert, donc c'est un homme, c'est un diable, un démon, sortit de sous sa cape un long poignard à la fine lame argentée. Des sanglots brisèrent sa voix tendue qu'il prononçait ces paroles. Que la chair, le fils, du serviteur, le fils, donnée volontairement, fasse revivre son maître. Il tendit sa main droite devant lui, la main à laquelle il manquait un doigt, puis il serra étroitement le poignard dans sa main gauche et l'éleva au-dessus de lui. Donc il utilise sa propre chair pour faire tomber dans ce chaudron. Harry comprit ce qu'il allait faire une seconde avant qu'il accomplisse son geste. Il ferma les yeux, les paupières, non, il est effrayé, mais ça continue. Troisième phase, je raccourcis. Cuthbert gémissait de douleur. Le diable, c'est toujours la douleur. La respiration précipitée. Ce fut seulement lorsqu'il sentit son souffle sur son visage que Harry prit conscience de la présence de Cuthbert juste devant lui. Alors il. Attendez. La parole. Que le sang de l'ennemi. C'est Harry, pris par la force, ressuscite celui qui le combat. Harry ne put rien faire, il était trop solidement attaché. Se débattant inutilement contre ses liens, il vit le poignard étincelant trembler dans la main, désormais unique de Cuthbert. Puis il sentit la pointe de la lame pénétrer le creux de son bras droit et le sang couler lentement dans la manche de sa robe déchirée. Cuthbert, haletant sous la douleur, fouilla maladroitement dans sa poche et en tira un flacon dont il appuya le goulot contre la coupure de Harry pour recueillir le sang qui goûtait. Donc, les os du père avec la chair du disciple, donc du fils, avec le sang de l'esprit, et c'est l'ennemi. C'est donc Harry. Avec ça, le chaudron bouillonnait, projetant de tous côtés des étincelles semblables à des diamants si brillants, c'est vraiment le miracle, que tout le reste paraissait par contraste un noir profond. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Pourvu que la chose se soit noyée, songea Harry, pourvu que tout ait raté. Et finalement, Lord Voldemort venait de renaître devant lui. Et après, il y aura le combat. Et ce combat va durer, je pense. Il faut encore trois tombes, donc il y a encore une histoire à raconter. Seulement pour vous montrer, c'est certainement pas seulement ridicule. Hein, Alors, pour terminer, conclusion, je pense que tout est dit. Je pense. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire comme conclusion? J'ai ici un texte. C'est marrant d'ailleurs de voir tous ces bulletins utilisent mon article, mais sans me nommer. Mais j'ai trouvé ici dans un bulletin français une conclusion d'une madame
après expliquer ce que je viens dire maintenant. Et il suffit, Rowling est découverte, de ses intentions réelles sont dévoilées. Après cela, il est aisé de répondre à la question « Faut-il laisser nos enfants lire Harry Potter ?» Il est évident que non, même si pour cela, une fois de plus, il va falloir passer pour d'affreux censeurs ringards et bornés.
Parce que c'est ça qu'on nous dit, toute la fraternité est toujours contre, mais toujours.
L'auteur a d'ailleurs elle-même anticipé, alors elle cite maintenant, non, pardon. L'auteur a d'ailleurs elle-même anticipé notre réaction en créant ces ridicules Moldus qui ne sont rien d'autre que vous et moi.
Moi, j'avais toujours cette impression. Bon, c'est jamais, vous ne trouvez pas le mot chrétien, mais j'ai quand même lu exactement, et c'était toujours un peu mon impression. C'est nous, ces bêtes, ces imbéciles qui ne pratiquent pas encore ce pouvoir diabolique, mais qui croient encore en Dieu.
C'est pas dit comme ça, mais c'est évident. Et il y a d'ailleurs un texte d'elle où elle dit, et c'est déjà dans le premier tome, j'ai pas lu, mais j'ai ici une citation, donc j'invente pas quelque chose, c'est pas une eisegèse comme on dit, je lis pas mes idées, mais c'est elle qui dit, c'était à la page 18, donc vraiment au début du premier tome, des gens pareils, les Moldus, encore une fois, chrétiens, seront incapables de comprendre ce garçon, Harry Potter. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonné que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. Et donc le jour, l'anniversaire de Harry Potter et l'anniversaire de cette femme, et la fête principale, encore une fois, c'est Halloween. Je ne sais pas s'il y a vraiment là un lien, en tout cas, c'est impressionnant de voir d'année en année la folie Halloween agrandit encore. Les dangers d'une telle lecture apparaissent très clairs à l'analyse. Tout d'abord, d'un point de vue de l'équilibre psychologique des jeunes, il est clair que cette saga ne peut qu'apporter ruine et désolation, particulièrement lorsque sont affaiblis les cadres familiaux et sociaux qui servent habituellement de point de repère. D'un point de vue religieux, le cas est encore plus grave. C'est ça que j'ai essayé d'écrire. Nous avons vu sur le fond la portée de l'attaque, n'y revenons pas. Signalons tout de même le risque bien réel de voir les jeunes tenter de se mettre à l'école de Harry Potter et, en clair, de se lancer dans la pratique de la sorcellerie. Ce serait maintenant une recherche, mais certainement intéressante de voir, comme par exemple, il y a un film à la télévision qui propage la suicide, et après vous avez 30 cas de suicide. Ce serait intéressant de voir, mais il y a des textes d'ailleurs, des enfants qui commencent maintenant à faire cette sorcellerie. Tout le monde sait avec quelle facilité on peut de nos jours se procurer livres et matériels spécialisés pour cela. Vous trouverez les mêmes termes. Il est d'ailleurs bien révélateur à ce titre de voir que les grandes instances officielles de la sorcellerie, en parenthèse Wicca, toute puissante église satanique par exemple, se réjouissent du phénomène Harry Potter et à vous devoir répondre à un flot sans cesse grandissant de demandes. C'est quand même un fait. Le simple fait de jouer avec ces formules qui fourmillent dans les livres n'est pas anodin. Une extrême prudence s'impose dans ce domaine. Les exorcistes sont formels sur ce point. Ceux qui débutent en sortilège bébête peut conduire à un dommage spirituel ou psychologique, voire à l'obsession ou à la possession diabolique. Et ces livres de Verlaine, c'est impressionnant, les cas où il montre justement. Et c'est jamais celui qui prend le pendule, mais c'est l'autre ou un ami qui reçoit ce dommage. Faut-il se réjouir que les enfants redécouvrent, le plaisir de la lecture avec Harry Potter? Nous n'hésitons pas à affirmer que non. Mieux vaut ne rien lire
que s'absorber des lectures nuisibles. Et encore une fois, ce qui est impressionnant, je pense ça, c'est révélateur, pour conclure. Pourquoi ? Comment est-ce possible qu'il y a une telle fascination à lire ça, avec une portée, mais inouïe ? Alors, moi j'ai dit dans l'article, je crois, ou sur la cassette, ça montre, justement, le monde est préparé pour cela. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas pour faire peur. Mais il faut être très, très réaliste, et on peut dire, il y a une vague d'occultisme aujourd'hui. New Age a fait le début. L'horoscope, maintenant, c'est répandu partout. Vous ouvrez les journaux, ne l'ouvrez pas, mais vous voyez partout ces annonces. Coopération de couple, toute une liste d'horoscopes. Et cartomancie, je crois qu'on a entendu ça. Oui, c'est ça. Alors, on a vraiment l'impression, par toutes ces choses, New Age, horoscope, Harry Potter, Halloween, Pokémon, c'est un autre sujet, vous trouvez ici une très bonne lettre qui explique un peu ces trucs de poche. On a l'impression, on prépare, on attend, on parle d'un nouveau salut. Ce n'est plus notre Seigneur ou la foi ou Dieu, mais c'est une autre chose. Et quelle est cette autre chose? On a l'impression que c'est un monde païen qui est complètement accepté. Imaginez, il y a 10 ans, ou disons 15 ans, toutes ces choses avec Halloween. Impossible. Et tout d'un coup, ça se répand partout. Une chose, une idée, un message qui était, comme j'ai dit, fortement interdit par l'Église. C'était une des choses les plus graves, de jouer avec ces choses. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense, sans exagération, on peut dire, vous pouvez penser les francs-maçons, le diable, c'est égal, mais je dis, on prépare un monde qui n'est plus un monde chrétien, qui n'est plus le royaume de notre Seigneur, mais qui est le monde de l'Antéchrist. Et ce qui est vraiment dramatique, je répète, c'est, on a l'impression, on est déjà mûr. C'est plus quelque chose qui effraye ou qui fait peur. Non, bien au contraire, c'est une fascination, mais imminente. Et je pense que c'est là le danger. Vous voyez, si vous lisez ça, vous ne perdez pas la foi. Mais je pense qu'il faut quand même, comme dans beaucoup de choses, nous sommes un peu dans cette situation. On doit réagir, on doit être contre. Dans beaucoup de choses, il faut quand même montrer l'exemple en disant, moi, comme chrétien, comme parent, comme maman, comme enseignant, je refuse. Je renonce à ça. Moi, je... Même si beaucoup disent c'est une mode et ça va passer, moi, je ne crois pas. New Age, on disait aussi ça va passer. Oui, ça passait, mais maintenant c'est établi. C'est ça le problème. Et maintenant, on n'est plus effrayé. Je me souviens encore les premières conférences par nous, ou Monseigneur, où c'était 88, 87. On pensait, non, mais c'est impossible. Mais maintenant, c'est accepté. Et je pense avec ça, c'est un peu... C'est un autre élément, une autre pierre de mosaïque pour préparer un monde antichrétien. Et qu'est-ce que cela veut dire? L'homme, il peut tout. Ce qu'il veut atteindre, il l'atteint. Dieu n'est plus tout-puissant. Celui qui est tout-puissant, c'est la magie, diable, l'ésotérisme. Donc, je pense que c'est ça le danger, ce message dont on a parlé. L'homme est en train de se préparer, ou plutôt il faudrait dire, l'homme est préparé. C'est organisé, c'est une action qui est dirigée. L'homme est préparé pour un monde qui n'est plus le monde du Seigneur, donc le monde chrétien. Et si vous faites maintenant allusion avec tous ces éléments qui nous entourent, je cite pour terminer un seul fait. Imaginez, dans des pays chrétiens, après 2000 ans de christianisme, on refuse, mais formellement, c'était d'ailleurs le grand frère Girac, de mentionner dans la nouvelle charte pour l'Europe le nom de Dieu ou même du christianisme, les racines chrétiennes. Qu'est-ce que cela veut dire? On prépare un monde qui est complètement antichrétien. C'est ça, qui fait peur ou qui est vraiment dangereux. Et c'est pourquoi ce n'est pas exagéré si on dit il faut faire opposition. On ne peut pas, même moi je n'ai pas perdu la foi, j'espère, mais ce n'est pas nécessaire de courir derrière ces choses. Et il faut, je pense, c'est facile à expliquer aux enfants, même si tout le monde maintenant ça c'est un peu moins excité, mais avec le cinquième tome, avec le film, ça va repousser, vous verrez, hein. Je pense que c'est quand même possible à expliquer aux enfants. C'est pas notre monde. Moi, ou comme parents, comme nous, comme famille chrétienne, catholique, on ne veut pas de ça. Je pense que c'est parlant, c'est clair. Bon, excusez la longueur de cet exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous donne un autre exemple. Mais j'ai ici une édition allemande, Cassie, elle a dit oui. Par hasard, j'ai trouvé une présentation de ce livre pour résumer. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans, c'était le 20 avril 99, ce massacre à Colorado, dans une école, où deux garçons ont tué 13 élèves. Et un de ses élèves, une fille, s'appelait Cassie, et elle était croyante. Et sa maman a écrit maintenant un livre, une biographie de cette fille. Et il y a deux choses qui sont très impressionnantes. Bon, c'est un contexte protestant. Aux États-Unis, il y a beaucoup de groupements protestants, des sectes. On pourrait dire un renouvellement du christianisme, malheureusement hors de l'Église, parce que l'Église est complètement faible. Alors, c'était cette fille, elle avait 14 ans, 13 ans, et elle est tombée dans un groupe satanique. Et justement, ces deux garçons qui ont tué, qui ont fait ce massacre, étaient des satanistes. C'est moi qui dis ça. Mais en tout cas, leur idole, leur idéal, c'était ce musicien rock, ce sataniste Marilyn Manson qui a donné un concert à Zurich tout récemment. C'est vraiment un sataniste, mais c'est effrayant. Alors, ces jeunes, beaucoup de ces élèves de cette école admiraient ce musicien et ils ne parlaient que de suicider, de tuer les professeurs, les parents. Et cette fille est tombée dans un tel groupe, complètement révoltée contre les parents. Les parents, heureusement, ont tout fait pour sauver cette fille. Elle a dû changer l'école, elle était surveillée. Et donc elle a reçu des lettres, elle a écrit elle-même des lettres en disant « Alors on essaye de tuer notre professeur », des choses comme ça. Et vraiment, c'était pas rigolo. Alors, par hasard, elle a une amie ou une autre élève l'a pris dans un groupe chrétien, un groupe protestant. Et là, elle s'est convertie, elle a commencé à prier. Et on a l'impression qu'elle était vraiment prête à donner sa vie pour le bon Dieu. Elle parle plusieurs fois de ça. Ou le plus se marie, elle avait vraiment donné sa donnée à Dieu. Et donc, ce matin, où il y avait ce massacre, c'est un autre garçon, un autre élève, qui a entendu ça. Il n'a pas vu, parce que tout le monde était caché dans les armoires, sous les tables. En tout cas, il entend cet entretien, en parenthèse, en guillemets, ce garçon qui tire, il pose cette question, est-ce que tu crois en Dieu? Et c'est pourquoi ce garçon qui a écouté ça a tiré la conclusion, elle a dû prier, sinon pourquoi il a posé cette question, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a dit oui. Deuxième question, pourquoi tu crois en Dieu? Mais il a tout de suite tiré, elle était morte. Alors, ce qui est impressionnant, pour vous consoler un peu, ou pour vous fortifier dans ce contexte, cette influence est vraiment, elle est là. On ne peut pas jouer avec ces choses. Même, c'est un autre exemple, cette musique. C'est une musique, bien sûr, c'est musique rock, musique heavy metal, satanique, mais l'influence, elle est là. Et c'était des élèves, des enfants de 14, de 13 ans. Et on peut dire, oui, c'est une mort. Non, ce n'était pas une mort, c'était très sérieux. Mais en même temps, c'est une des choses qui m'a impressionné en lisant ce livre. Il y a vraiment ce danger de Satan, de ce monde pervers, mais d'autre part, on peut aussi se convertir. Il y a encore des moyens pour être tiré de ce monde pervers, pour être sauvé. Donc, pas tout est perdu, vous voyez, il y a quand même bien. Dieu, il peut agir. Notamment, il y a 10 jours, j'étais à Genève, et une voisine du prieuré, c'était une jeune fille. Elle a raconté à l'abbé Grand, j'étais avec, et après, il a dû répondre au téléphone, et cette fille a raconté un peu une histoire effrayante. Donc, je ne vais pas tout raconter, sinon on est encore à midi là, à minuit là. Les parents étaient dans un groupe, la franc-maçonnerie. Les parents ont compris le truc, ils voulaient sortir. Mais après, ça a commencé. Le papa, c'est un vétérinaire, on dit. Et dans quelques jours seulement, je crois dans une semaine, si je me souviens bien, ou même pas, une semaine, les chiens de 5 amis de cette famille étaient, comment dit-on, morts ou empoisonnés, je ne sais pas comment, mystérieusement. Tout d'un coup, elle reçoit la maman. Une lettre de cette personne qui jetait le sortilège, la sort, elle lit la lettre et la main était brûlée. Alors vite, elle a compris, elle s'adresse à un prêtre, il se confessait. Mais ça existe, hein. Je connais des jeunes qui essayaient de jouer avec ce truc, avec la table, qui répond, et ça marche, ça marche. Tout récemment, monsieur m'a dit, dans tous les cadres, on fait maintenant des sortes de séminaires où on essaye d'adapter ces choses. Il y a toujours, c'est toujours lié avec l'ésotérisme. Et même si on refuse, on dit, essayez simplement, il ne faut pas croire. Et ça marche. Non, il y a certainement un danger et tous ces experts ont. Des prêtres qui font des exorcismes, justement ce prêtre cité Verlaine, il avertissent, mais fortement, il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas, même le pendule, bien sûr, il y a des formes qui sont acceptées par l'Église pour trouver l'eau, mais déjà là, vous voyez, ça séduit d'une certaine manière à chercher plus. D'abord, on cherche l'eau, après c'est l'or, et après c'est. Non, non, c'est très répandu dans les écoles. Même dans nos écoles.